Là-haut, troisième partie, chapitre 10. Cette année-là, un pensionnat de jeunes filles s'abattit sur le chamois, comme un vol d'oiseaux bigarrés. Elles avaient de 14 à 18 ans, des cheveux tressés en longues nattes ou flottant sur leurs épaules, blonds, bruns, noirs, roux, auburnes. Le français qu'elles parlaient, par ordre, se nuançait de tous les accents. Leurs rires sonnaient comme des gammes bien perlées. Après les repas, elles papillonnaient sur la place, passaient et repassaient en couple d'amis, les mains à la taille, en chuchotant des confidences, ou s'en allaient rêver sur les roches moutonnées, avec de vagues pensées et d'incertains désirs au fond de leurs grands yeux. À table, leur bruit de volière rendait impossible toute conversation. Ce fut grand bonheur, car il y avait cette année-là, avec les Adelines revenues comme exprès pour remplir la maison de leur Jérémiade, une ancienne institutrice à belle manière, Mademoiselle Topin, qui se plaisait à dévider d'interminables discours, en langage choisi, pour être écoutée. Croissy la comparait à ces orchestrions qui mâchent d'atroces musiques dans certains restaurants. Il ajoutait « Seulement, elle n'attend pas qu'on la remonte et ne s'arrête jamais. » Elle faisait l'effroi des anciens habitués, groupés comme toujours autour de Madame Sauge et de Volant. Leur compagnie s'était augmentée de Flamand, revenu depuis peu, qui s'imposait avec son insupportable familiarité. En revanche, elle perdit Sergine, qui fit défection pour passer au pensionnat, dont il devint le guide et le porteur, sans qu'on pût jamais savoir si la complaisance s'adressait à l'une des brebis du troupeau ou à sa grâce collective. Dans l'existence assez monotone de ces gens dissemblables, qui s'efforcent de se témoigner quelques bonnes volontés réciproques et baillent ensemble les jours de pluie, il y avait une heure amusante, celle des nouveaux arrivants, qui coïncidait avec le retour des chèvres. Chaque soir, en sortant de table, on avait cette double distraction. Devoir s'arrêter devant les hôtels, les petites voitures basses, d'où descendent les figures inconnues, au milieu d'un troupeau folâtre qui se bouscule pour attraper du sel ou du pain. C'était le moment aussi où l'on discutait les projets de course, en consultant dans sa niche, à côté de la porte cochère, le baromètre anéroïde qui promet toujours le beau temps. Or, par une soirée douteuse, où le vent de Savoie, en contradiction flagrante avec le baromètre, amassait des nuages inquiétants autour de la Dent Rouge, on vit arriver Madeleine Vallée, à pied et seule. La jeune fille avait changé d'expression, sinon de figure. En se fixant et s'accentuant, le caractère de méfiance inquiète que prenait sa physionomie contrastait davantage avec sa beauté sereine, dont il rompait l'harmonie. Au fond de ses grands yeux moins mobiles, son regard se concentrait, chargé d'énergie et de soupçons. Sa démarche éveillait l'idée d'une résistance toujours prête contre quelque ennemi toujours présent, en sorte qu'elle frappait moins par son charme que par son air de réserve excessive et presque de souffrance. Elle rendit à peine les saluts qu'on lui adressa, ne répondit que par une brève parole au souhait de bienvenue de Volant, pour disparaître aussitôt dans l'hôtel, derrière Élise Allée. Ce fut une arrivée sans expansion, sans gaieté, et ce passage presque maussade d'une personne pourtant si belle provoqua un vague malaise parmi les hôtes du chamois. Ils se consultèrent des yeux, comme pour se communiquer leur commune impression. Puis, à travers le clochettement du troupeau frétillant des chèvres, on entendit l'aigre voix de Mademoiselle Topin qui demandait « Qui est-ce ?» Ses yeux brillaient de curiosité maligne, comme si elle eût deviné, en la nouvelle arrivante, un de ces êtres marqués pour exciter les langues vipérines. Comme sa question tombait dans l'oreille de Madame Adeline, il y eut entre les deux femmes un échange éloquent d'exclamations, de gestes, de sous-entendus. Madame Adeline plissa les lèvres et fit « Oh !» Un « Oh !» expressif qui classait Madeleine parmi celles dont on a beaucoup de mal à dire. Mademoiselle Taupin répondit « Ah !» signifiant ainsi, plus clairement que par une longue phrase, qu'elle comprenait. Mais les détails manquaient encore. Même entre gens qui s'entendent à demi-mot, il ne suffit point d'un cri pour raconter toute une histoire. Et bien qu'elle eût d'emblée deviné le sens général de celle-là, Mademoiselle Taupin brûlait d'en apprendre les épisodes. Elle demanda donc « Qu'est-ce qu'il y a ?» Madame Adeline soupira, se tut un instant pour tenir en suspens la curiosité excitée, et reprit, assez haut pour qu'aucune de ses paroles ne se perdît, « Cette jeune fille est plutôt jolie, n'est-ce pas, mademoiselle ? On ne soupçonnerait pas qu'un tel visage cache une vilaine âme. Mais c'est toute une histoire, mademoiselle. Oh, je puis bien vous la raconter. Je la connais par le menu, car je suis intimement liée avec sa famille. J'entends son oncle et sa tante, mademoiselle, monsieur et madame Vallée, car elle est orpheline. Ce sont des gens excellents. La bonté même. Et vous n'imagineriez pas les tourments qu'elle leur cause. » Volant, qui écoutait avec intérêt, murmura à l'oreille de Madame Sauge « Vous allez voir que c'est le mouton qui a commencé. » Madame Adeline continuait. « Notez qu'ils l'ont recueilli. Ils lui ont ouvert leur maison, ils l'ont installée à leur foyer comme leur propre fille. » Mademoiselle Taupin interrompit « Elle n'avait donc point de fortune ?»« Oh, si fait !» répondit Madame Adeline. « C'est-à-dire que son excellent oncle est parvenu à sauvegarder ses intérêts à force de sacrifices. Mais là n'est pas la question. Sa seconde famille lui a donné mieux que du pain et de l'argent. De bons exemples, une saine atmosphère, des soins maternels. Madame Vallée a été pour elle la meilleure des mères. C'est qu'elle ne savait pas quel serpent elle réchauffait dans son sein. » Mademoiselle Taupin trouvait ses préambules bien longs. « Mais enfin, » demanda-t-elle, « qu'est-ce qu'elle a fait ?»« Ce qu'elle a fait, mademoiselle, je vais vous le dire. D'abord, l'an dernier, elle s'est enfuie de la maison, où il a fallu la ramener de force. Et puis, à peine majeure, elle a réclamé ses comptes de tutelle par voie juridique, mademoiselle. Comprenez-vous une chose pareille ? Une jeune fille de 21 ans qui se conduit comme un procureur ? Car elle a fait un procès, mademoiselle. N'est-ce pas honteux ? » Mademoiselle Taupin s'attendait à des révélations d'autre sorte. Aussi trahit-elle sa déception en murmurant « C'est tout ?» Madame Adeline se récria « Comment ? Vous ne trouvez pas que c'est assez ?»« Oh, sans doute, c'est très grave, madame. Et son procès, elle l'a perdu, sans doute. »« Mais non, mademoiselle, elle l'a gagné. C'est ce qu'il y a d'affreux. » Les magistrats ne jugent jamais que d'après le code, sans tenir compte d'intérêts bien plus importants que les intérêts matériels. Sa pauvre tante a failli mourir de chagrin, mademoiselle. Maintenant, cette jeune fille vit seule, avec une femme de chambre. N'est-ce pas effrayant ? Comment voulez-vous que cela finisse ? Notez qu'elle s'est mise à faire de la peinture encore. Elle veut être artiste. Ah, si ses pauvres parents la voyaient ! Rien de tout cela ne ressemblait à l'histoire que Mademoiselle Taupin avait espérée. Comme elle y tenait, elle demanda d'un ton discret « Vous m'avez dit qu'elle avait quitté la maison de son oncle, madame. Était-elle seule ?» Madame Adeline se mordit les lèvres. Pour répondre, elle baissa la voix, avec cette instinctive pudeur qu'ont parfois les gens qui disent de très vils mensonges. Et les deux femmes continuèrent à papoter, sans qu'on entendît leurs propos. Le lendemain, quand Madeleine fit son entrée dans la salle à manger, pour prendre à côté de Volant la place qu'on lui avait marquée, toutes les têtes se tournèrent de son côté. Tranquillement, avec cette énergie résolue et volontiers combative, dont les impulsions la guidaient souvent, elle fit des yeux le tour de la table. croisa son regard avec les regards malveillants de Mademoiselle Topin, puis avec le regard haineux de Madame Adeline, qui cependant se trouva forcée de la saluer. Faiblesse dont elle se vengea en murmurant à l'oreille de Mademoiselle Topin
« Quelle effrontée !»
Ce petit manège avait causé une gêne à laquelle la bruyante arrivée de Raronne fit une heureuse diversion. Depuis le commencement de la saison, il montait ainsi de temps en temps à Valenches pour surveiller les travaux de son hôtel. Il venait alors prendre ses repas au Chamois comme un simple touriste, mais il s'y comportait en souverain, qui partout est chez soi. Selon son habitude, il se mit d'emblée à parler très haut en s'adressant à ses voisins, Croissy et Flamand, avec l'expansion familière et intarissable qui lui était naturelle. Grâce à sa voix, à sa carrure, à son importance, à ses gestes, sa conversation devenait tout de suite un monologue. Mademoiselle Topin elle-même n'éprouvait plus le besoin de placer son mot. Le pensionnat se taisait comme une ruche endormie. Élise allait, qui aidait au service à cause du grand nombre des convives, négligeait de passer les plats pour mieux écouter, car il lui semblait que cette voix sonore allait toujours proférer des oracles, quelque chose comme les douze tables des aubergistes. Raronne choisissait lui-même ses sujets, qu'il traitait à bâton rompu, sans écouter les répliques de ses interlocuteurs quand elles le gênaient. Ce jour-là, après avoir constaté qu'il faisait très chaud sur la route, il se mit à dire « J'ai rencontré un savant, hier, à Sion, une espèce d'historien qui fouille dans les vieux papiers. Cet homme m'a raconté toute l'histoire de mes ancêtres. C'était des gaillards, savez-vous, monsieur Croissy ?» Ainsi interpellé, Croissy se contenta de répondre « Je le pense bien. » Raronne agita la main au-dessus de sa tête. « Oh ! » fit-il, « vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Ce qu'ils se sont battus, ces vieux barons, contre les Savoyards, contre l'évêque de Sion, contre les paysans, contre les Bernois, contre tout le monde, enfin. Ils étaient vainqueurs, ils étaient vaincus, ils étaient prisonniers. Leurs femmes vendaient leurs bijoux pour payer des soldats. On leur rasait leurs châteaux, ils allaient en pèlerinage. » Ils partaient pour l'exil. Et ils revenaient toujours. Ils étaient puissants comme des princes. Ils dirigeaient toutes les affaires du Valais. Et puis, un beau jour, la Matz s'est levée contre eux. Ils se sont effondrés comme une tour qui s'écroule. Il y a près de 500 ans de cela. 500 ans. Et je descends d'eux, moi qui vous parle. Ce que ma famille a fait dans l'intervalle, par exemple, je n'en sais pas le premier mot. « Un plongeon !» Il cligna de l'œil d'un air malin. « C'est moi qui la relève. Oh, par des procédés nouveaux, en moderne que je suis, en homme qui comprend son époque. »« Fin de siècle, quoi ?» fit Croissy d'un ton qui frisait l'impertinence. Raronne eut un geste de magnifique étonnement. « Croyez-vous par hasard que je plaisante ?»« Pas le moins du monde, monsieur !» J'ajouterai que ce que je fais vaut bien ce qu'il faisait. À l'occasion, il détroussait les voyageurs. Moi, j'offre aux étrangers de bonnes cuisines et des logements confortables, sans les tondre encore. Croissy, agacé, ne se déridait pas. Flamand seul rit bruyamment de la boutade. « Voulez-vous que je vous raconte ?» continua Raronne. Ce que j'ai répondu un jour à un ambassadeur descendu au grand hôtel de l'Estral, il s'étonnait de voir un gentilhomme aubergiste et rappelait le temps où les Suisses ne vivaient guère que de leurs armes. Je lui ai dit « Monsieur l'ambassadeur, les nobles de ce pays servaient autrefois l'étranger l'épée au côté. Moi, je le sers la serviette sous le bras, mais le cœur est resté le même. » Plusieurs approuvèrent. Croissy cita ironiquement un vers d'un chant militaire. « Les fils seront dignes des pères. » Raronne se tourna vers le peintre, et le foudroyant du regard continua. « Eh, monsieur, Trouvez-vous par hasard que c'était si beau, ce commerce de chair humaine ?
En tout cas, c'était héroïque, dit Croissy.
Allons donc ! Ils se battaient pour de l'argent, sans souci du drapeau qu'ils servaient. Ils en changeaient d'ailleurs, et combattaient le lendemain ce qu'ils avaient défendu la veille. Ils abandonnaient leur pays, ils n'avaient plus de patrie. Les champs restaient en friche, on ne trouvait plus d'ouvriers. Ces héros étaient des pillards, ils ne songeaient qu'au butin. S'ils se battaient pour le compte d'autrui, ils se décidaient avec peine à défendre leur patrie. Car pour eux, la guerre était un commerce qu'on ne cultive que quand il rapporte. Aussi a-t-il fallu que les hommes de cœur du pays les arrêtent et les retiennent. Et leurs exploits n'ont jamais été que la plus triste page de notre histoire. Quelque peu sympathique que lui fût Rarogne, Voland ne put s'empêcher de l'approuver. « Vous avez raison, dit-il. Ce fut une heure de folie d'un peuple honnête et vaillant. C'est pour cela que je me fâche quand on nous jette au nez nos ancêtres. Ce qu'il faut, voyez-vous, c'est être de son temps. Que voulez-vous qu'ils fassent aujourd'hui, les descendants de nos grandes familles ? Leurs châteaux sont en ruine, ils n'ont plus même de vieilles épées à vendre aux antiquaires. Il y en a quelques-uns qui meurent de faim dans des palais délabrés. Il y en a qui se contentent d'humbles places de fonctionnaires, sous prétexte qu'il est plus noble de gratter du papier timbré que de tenir des livres de comptes. Ceux-là sont bien finis. La Matz les a tués. Ceux qui ont raison, ce sont ceux qui s'emparent des armes nouvelles pour redorer leur vieux blason, ceux dont vous pouvez lire les noms illustres à la quatrième page des journaux, parmi les annonces, ceux qui ouvrent des hôtels, qui vendent du vin, qui travaillent et produisent. Voyez-moi, l'écusson des Rarognes était tombé dans la poussière, je l'ai refait à ma manière, c'est mon enseigne. Il portait, à ce que m'a expliqué mon savant, d'or à l'âge de sable, allumé, l'an passé et armé de gueules. Moi, je porte simplement grand hôtel de l'Estral. C'est aussi de sable et d'or, comme ils disent, puisque les lettres sont jaunes sur fond noir. Là-dessus, Rarogne repoussa le plat de fraises que lui offrait Élise Allée. « Non, merci, Madame Allée, je ne prends jamais de fruits. Envoyez-moi le café devant la maison. Sans chicorée, n'est-ce pas ?» Il se leva de table pour rester sur son effet, en faisant signe à Flamand de le suivre, et sortit sur la place, qu'il traversa pour s'approcher de l'hôtel du Florent, en attendant son café. Trois ou quatre étrangers sortaient de la maison neuve, avec des mines ennuyées. Gaspard stationnait devant sa porte, à côté de Rosine, avec laquelle il plaisantait aussi gaiement que si son hôtel eût été rempli. Rarogne s'approcha de lui, les mains dans les poches de son veston, et lui demanda d'un air insouciant « Eh bien, ça marche, les affaires ?» Gaspard, en se dandinant, répondit de sa voix traînante « Ça va comme ça peut, monsieur de Rarogne. »« Ça va comme ça peut, ça veut dire que ça ne va pas, hein ?»«
Ce n'est pas ce que je veux dire, » fit Gaspard qui ne voulait pas se plaindre. « Mais le monde a de la peine à venir. »
« Vous avez pourtant tout ce qu'il faut pour la tuer, » riposta Rarogne en coulant un regard vers la jolie chambrière.
Comme Rosine rougissait, enchantée du compliment, il lui donna deux ou trois tapes amicales sur la joue, ce qui la fit rougir plus fort, tandis que Gaspard, au contraire, devenait pâle comme un linge et roulait des yeux furieux. Pourtant, il avala sa colère sans souffler mot. Maurice Combes et César Cascaté, qui avaient observé la scène à trois pas de distance, en se concertant pour une course prochaine, se regardèrent en riant. Depuis quelque temps, les gens répétaient que Gaspard en tenait pour sa jolie bonne. Il paraît bien que c'était vrai. Et le malheureux n'était point au bout de sa jalousie, car comme Rarogne s'éloignait, Flamand voulut l'imiter, s'approcha de Rosine à son tour, et lui prit le menton en faisant la bouche en cœur. Mais la patience de Gaspard était à bout.
sa lourde main s'abattit sur le bras de l'ingénieur, qu'il tordit à le faire crier, tandis que Rosine, confuse, se hâtait de s'esquiver, et que Flamand, contusionné, s'excusait avec son accent rauque.
« C'était pour rire, monsieur Clévoz, c'était pour rire !»«
Eh bien, allez rire ailleurs !» Raroigne, qui s'était retourné, haussa les épaules en grognant
« En voilà un qui n'ira pas loin !»
Assis seul sur le banc des vieux, le père Clévoz suivait la scène, de son œil morne qui ne s'intéressait plus à rien. Car maintenant, il ne se mêlait plus au groupe où l'on cause. Il se réfugiait avec sa pipe sur la planche allongée devant le cimetière, où viennent s'asseoir ceux qui n'ont plus rien à dire, ceux qui ne pensent plus, les septuagénaires trop faibles pour aucun travail, trop las pour réfléchir encore, bons seulement à ressasser ensemble leurs vieux souvenirs, qu'ils ne se communiquent même pas, comme des bœufs qui ruminent à la même étable, mûrs pour le champ du repos, dont on croirait volontiers qu'ils ont enjambé la muraille. Rosine l'inquiétait, le pauvre vieux, comme un danger qu'on pressent sans le comprendre, comme un de ces petits nuages qu'on aperçoit au bout du ciel la veille d'un jour de moisson. Mais il ne s'en rendait pas compte et n'en aurait rien dit à Gaspard. Il se contentait de la regarder avec des yeux étonnés, comme on regarde une machine aux rouages compliqués dont on ignore le fonctionnement. Quand il la rencontrait dans la maison, il avait toujours l'air de penser « Qu'est-ce que c'est donc que ça ?» Quand elle lui adressait la parole, ses lèvres mâchonnaient une réponse qu'elle ne prononçait pas. Du reste, la jolie bonne l'entourait de petits soins gentils. Sans les apprécier, il se laissait câliner, comme un enfant par une belle-mère dont il se méfie. Comme Raroigne et Flamand, l'ingénieur, un peu penaud, baissant l'oreille, s'attablait devant le chamois pour prendre leur café. Les autres convives sortaient de la salle à manger. Les pensionnaires se dispersèrent aux quatre vents, et l'on vit Sergine hésiter entre leurs divers groupes. Mademoiselle Topin s'installa sur un banc, au-dessous du baromètre anéroïde, à côté de Madame Adeline. Non, certes, pour se taire ensemble. Les hommes allumèrent leurs pipes ou leurs cigares, des enfants gambadaient. Madeleine passa, sans rien dire à personne, prit une chaise et s'assit à l'écart, toute seule. Volant, se détachant du groupe des fumeurs, s'approcha d'elle. Il prononça quelques phrases banales qui n'obtinrent que des réponses distraites. La jeune fille restant méfiante, comme résolue à repousser toute avance pour s'enfermer en elle-même. Sans se laisser rebuter par cette attitude presque hostile, il dit « Moi qui suis un vieux Valanchet, je me réjouis toujours de voir revenir les figures des autres années. L'an passé, nous avons regretté votre absence avec M. Sterny. Cette année, c'est lui qui n'est pas là. » Elle le regarda, surprise, un peu troublée, en se demandant quelle intention amenait ce nom dans leur indifférent entretien. Volant, non sans l'observer, continua. « Mais j'ai reçu une lettre de lui. » Il s'arrêta. « Ah ? » fit-elle en jouant l'indifférence. Ses yeux s'étaient fixés sur la tête noire de la Matz qu'il ne quittait plus. Volant dit, lentement, « Je ne sais pas encore s'il viendra. » Il hésite. Un imperceptible frémissement des sourcils lui indiqua seul qu'on l'écoutait avec intérêt. « Je crois plutôt qu'il se décidera, » ajouta-t-il. Madeleine répéta, « Vous croyez ?» Il y eut un silence, comme si le sujet était épuisé. Mais Volant reprit, d'un ton changé, qui n'affectait plus l'insignifiance convenable aux propos oiseux. « C'est un homme un peu singulier que M. Sterny, tel qu'on n'est guère habitué d'en rencontrer ici. Un homme compliqué. Je lui crois une âme très noble, mais que des mélanges impurs ont longtemps enveloppé et qui a eu de la peine à se dégager. La vie a été pour lui l'opération qui délivre de ses alliages le métal précieux. Vous savez sans doute, mademoiselle, qu'on ne trouve jamais l'or pur, qu'il faut tout un triage pour le tirer de son minerai.
Madeleine murmura « Je ne savais pas. »
« Ce triage est une opération difficile. On a des machines qui écrasent, broient, chassent les éléments grossiers. Monsieur Sterny a passé par ces machines. Il a traversé des épreuves dont bien d'autres, aux âmes nulles, ne seraient point sortis meilleurs. Lui en a été renouvelé, transformé, épuré. Si je vous dis cela, mademoiselle, c'est parce que je crois qu'il doit un peu sa métamorphose à Valanche, à la beauté de la nature, à la bonté de l'air, à la simplicité de cœur des gens qu'il a rencontrés ici, peut-être aux sympathies que quelques-uns d'entre eux ont su lui inspirer. » D'un grand effort, Madeleine détourna ses yeux troublés de la Matz, les ramena sur Volant et dit, en abaissant malgré elle ses longs cils, « Ce que vous me dites peut être vrai, monsieur, mais je connais très peu votre ami. » Sa voix se faisait d'une douceur infinie qui corrigeait l'indifférence des paroles.
« Je ne puis dire que je le connais beaucoup, » répondit Volant.
« Je l'ai vu d'abord ici, il y a 2 ans, quand il venait pour la première fois. Puis, l'an dernier, nous sommes allés ensemble à la fête des vignerons, où je sais qu'il vous a rencontré, mais où je n'ai pas eu le plaisir de vous apercevoir. Enfin, cet hiver, avant de partir pour la Tunisie, où il a fait un assez long voyage, il a passé quelques jours auprès de moi, à Vevey. C'est là, surtout, que j'ai appris à le connaître, car nous avons causé très confidentiellement. Toutes sortes de questions le préoccupent. Il voudrait donner un but à sa vie. Grave problème. Oh, facile à résoudre pour les gens comme moi, qui sont soumis aux exigences d'une carrière. Mais lui, il ne veut plus de ce qu'il appelle un métier parasitaire, c'est-à-dire qu'il se refuse généreusement la part meilleure, celle que réclament d'habitude les jeunes gens de sa fortune et de sa position. Il a d'autres ambitions. Il voudrait être utile, servir par son œuvre la bonne cause des hommes de progrès. Il se demande ce qu'il pourrait faire. Volant s'arrêta. Madeleine fixait un point invisible dans l'espace, immobile d'attention, frémissante d'une émotion que sa volonté contenait. Volant reprit. Je vois par sa lettre qu'il n'a pas encore trouvé la solution du problème, bien qu'il me parle avec un certain enthousiasme de ces grands pays nouveaux qui réservent à l'homme une vie saine et ses joies de créateur. Mais ce n'est qu'un éclair pour autant que j'en puis juger. Après avoir passé quelques semaines en Tunisie, il a voyagé au hasard. Je plains les âmes errantes. Ce sont des épaves qui se laissent balloter à travers le monde. Il faut que l'arbre jette ses racines dans un bon terrain pour croître, pour fleurir, pour donner ses fruits. Mon ami ne demanderait qu'à trouver ce sol propice. Et moi, je ne saurais vous dire combien je lui souhaite de fixer sa vie vagabonde. » Il avait parlé avec une émotion croissante. Madeleine comprit le vrai sens de ses paroles. Elle sentait la délicatesse de cette sympathie, qui, ayant deviné son cœur et celui de Julien, unis par tant de fils mystérieux et séparés par le fleuve de tout ce que la vie se plaît à rouler entre des êtres qu'elle destine au véritable amour, leur offrait son loyal concours. Elle aurait voulu répondre à cette confiance par une confiance égale, accepter d'un mot ou d'un signe cette médiation bienveillante. Elle aussi, la vie l'avait enveloppée dans une gangue impure. Trop de soupçons étaient entrés dans son cœur, où tremblaient encore les reflets honteux des laides convoitises, des viles pensées qu'elle avait innocemment suscitées. Elle sortait trop meurtrie d'un conflit trop laborieux, où la bassesse humaine s'était trop librement dévoilée à ses yeux candides. Elle ne pouvait ni se confier, ni s'épanouir. Une invisible force arrêtait sur ses lèvres les paroles confiantes, enfonçait au fond de son cœur les douces pensées. Elle ne trouva pas un mot pour dire à Volant l'émotion qui la bouleversait, pas un regard pour répondre au regard infiniment triste qu'il posa sur elle. Et pendant qu'il s'éloignait, elle songeait que seul, peut-être, cet homme honnête, intelligent et bon pouvait leur ouvrir la vraie voie de la vie. Qu'elle le laissait passer, pareil au blessé qui cacherait sa plaie au bon samaritain. Qu'un mot suffirait pour le retenir, une phrase pour lui tout expliquer, et que cette phrase, ni ce mot, elle ne pouvait les dire. Mais, avec cette intuition propre aux hommes que leur cœur éclaire, Volant comprit quand même. Peu de jours après cette scène, dont le souvenir lui restait pénible, Julien arrivait, averti de la présence de Madeleine. Chapitre 11. Entre deux êtres qui s'aiment déjà, sans savoir presque rien l'un de l'autre, naît bien vite le besoin des intimes confidences. Ils veulent s'entendre penser, se dire tout ce qu'ils pensent, et chacun s'efforce de se révéler, non peut-être tout à fait tel qu'il est, mais tel qu'il désirerait l'être. Dans cet effort pour sembler meilleur, ou plus généreux, ou plus noble, il n'y a d'ailleurs aucun mensonge, car lequel est le plus vrai, de l'être réel que nous sommes, dont la vie a troublé les sens, ou de l'image idéale de nous-mêmes que nous conservons intacte au fond de notre cœur? Or, au cours des heures délicieuses qui sont comme l'annonciation de l'amour, cette image que souillent les contacts ou que ternissent les reflets du train journalier se dégage et se fixe en nous exaltant. Pour quelques heures, ou pour quelques jours, ou pour un temps plus large, nous cessons de lui être inférieurs. Tels qu'elle nous forme, pareils à nos rêves, nous nous épanouissons pour l'être aimé en une splendeur que nous n'atteindrons jamais plus. De même, dans l'enchantement du printemps, les arbres cachent sous leurs fleurs leurs branches noueuses, blessées ou tordues, sous plus de fleurs qu'ils n'ont de feuilles et qu'ils n'auront de fruits. C'est ainsi que Madeleine et Julien s'efforçaient de se raconter l'un à l'autre, à travers leurs rêves, l'enchaînement d'incidents qui faisaient la trame de leur vie et le mystère plus profond de leur cœur. Ils s'en allaient par la route qui monte vers les traversies ou par les sentiers des prés et des bois, si follement désireux d'être seuls ensemble qu'ils ne songeaient point aux yeux qui les observaient, aux commentaires qui naissaient derrière leurs pas, aux propos de Madame Adeline et de Mademoiselle Topin, dont ils défrayaient maintenant les conversations. Assise devant le chamois sur le banc qui leur servait d'observatoire et de tribunal, les deux dames se communiquaient leurs remarques. Ils sont encore arrivés en retard au lunch. Avez-vous vu comme elle était rouge? Vous savez qu'on les a vus partir ensemble de grand matin avant le premier déjeuner?
Seuls? Naturellement.
Madame Adeline soupirait. Mademoiselle Topin levait les yeux au ciel en murmurant « Triste, n'est-ce pas, chère madame ?»«
Pour ces pauvres valets, surtout, qui ont pris tant de peine pour elle et qu'elle récompense si mal. »
Eux, cependant, s'émerveillaient de se trouver toujours d'accord, d'éprouver ensemble les mêmes émotions, d'aimer les mêmes paysages, de découvrir, à mesure qu'ils avançaient dans leurs confidences, des traits de ressemblance jusque dans leurs deux histoires. Ne s'étaient-ils pas trouvés orphelins au même âge? N'avaient-ils pas souffert tous deux de leur adolescence privée d'affection? Ne pouvaient-ils pas également se plaindre de la méchanceté des hommes? Surtout, ils arrivaient en même temps à ce tournant du chemin de la vie où l'on en mesure les contours, où l'on en cherche le but. Moment décisif, car le chemin, si l'on se trompe, va se perdre dans les fourrés. Pouvaient-ils croire qu'en vain le hasard les faisait se rencontrer ainsi au même point difficile, et non pas plutôt un de ces signes du destin qui nous guide? Volontiers, Julien parlait du « que faire » qui se dressait devant lui. Madeleine, plus naïve, plus confiante en la vie malgré ses déceptions premières, l'encourageait doucement. « Vous êtes trop hésitant, trop complexe. Pourtant, un homme est le maître de son sort. Il peut faire ce qu'il veut. Le monde lui appartient. Nul ne peut l'empêcher d'en faire la conquête, ou du moins de la tenter. Il me semble que si vous vouliez... » « Vouloir, répondit Julien, n'est-ce pas justement là tout le problème ? On le résout !» Il savait ce qu'elle ignorait encore, qu'à côté des obstacles extérieurs, il y a aussi, pour nous arrêter, ceux qui viennent de nous-mêmes. « Oui, disait-il, il y avait peut-être en moi de bonne étoffe. J'aurais peut-être pu faire quelque chose si... » Il n'allait pas plus loin. C'est qu'il venait de toucher lui-même à sa propre plaie, dont la douleur assoupie s'éveillait brusquement. Tandis que dans la limpide existence de Madeleine, il n'y avait rien qu'elle ne pût dire, tandis qu'elle ne connaissait du mal que celui qu'elle avait souffert. Julien demeurait prisonnier de son passé, condamné à le taire et à le cacher. Les impurs souvenirs, l'horreur et la honte creusaient entre elle et lui comme un abîme étroit et profond, rempli d'ombre, en sorte que leur causerie s'arrêtait toujours ainsi, au moment où, en devenant plus intime, elle les rapprochait davantage. Alors, il se taisait en se regardant, puis Sternie détournait ses yeux, et leur silence les effrayait. Il lisait sur le front de Madeleine qu'elle savait. Et il se disait avec désespoir qu'elle savait mal, à travers les propos de M. Vallée, et il voulait l'éclairer, et il ne pouvait pas. Car où prendre le courage d'appeler ses beaux yeux sur de laides images, de troubler cette âme candide par un récit affreux? Ce récit, pourtant, elle l'attendait, prête à l'indulgence, après se l'être mille fois fait à sa manière, telle qu'elle pouvait le concevoir et l'arranger. Inquiète, déçue, irritée après la première révélation de son oncle, elle en avait ensuite corrigé le sens en exerçant son imagination. En sorte que son esprit romanesque, enclin à la révolte, faisait de Julien un héros et une victime. Un héros de ce grand amour qui peut exiger de ses élus tous les sacrifices, une victime des lois injustes, des préjugés barbares, de l'universelle platitude. Ce qu'elle savait de lui ne fut plus que le canevas d'un roman magnifique, dont elle admira de confiance les péripéties inconnues, les couleurs violentes et rares, le dénouement tragique. Bientôt, quoique jalouse de l'héroïne inconnue du drame, elle s'introduisit elle-même dans cette fiction poétique, pour le rôle de la consolatrice attendue, de la sœur aux mains pleines de dictames, de l'amie entrevue en des rêves. Elle souhaita l'explication nécessaire, la confession qui laverait la faute, la joie suprême de relever le pénitent, de guérir le blessé. Plusieurs fois, elle eut sur les lèvres des paroles pour en hâter l'heure. Mille craintes confuses les arrêtaient dans sa gorge. Pourtant, elle sentait bien que Julien ne parlerait pas le premier de ces choses, l'effort étant trop grand pour lui, et ni l'un ni l'autre n'eussent consenti à les effacer dans l'oubli. Elles étaient là, toujours, elles les enveloppaient de leurs ombres. D'où jaillirait la lumière pour les dissiper? Et les jours s'enfuyaient du vol rapide qu'ont les jours heureux. Un soir, ils se trouvaient seuls sur cette espèce de promontoire rocheux où ils aimaient à voir mourir la lumière. Le soleil éteint, les glaciers épandus dans l'espace se couvraient de leurs teintes livides. La nuit montait du fond des vallées, gagnait les sommets, remplissait le ciel vide d'étoiles. Un silence divin les enveloppait, plus harmonieux que les plus belles musiques, ouatant la mousse sous leurs pieds, un silence dont il percevait les attouchements invisibles, qui remplissaient leur cœur d'une tendresse débordante et pourtant inexprimable, dont la douce force irrésistible les inclinait l'un vers l'autre. Un silence qui les emportait, comme un fleuve très lent emporte deux plumes de cygne, et qu'ils eussent voulu aussi éternel que le ciel obscur leur semblait infini. Longtemps, ils en savourèrent le mystère mélancolique à force de douceur. Puis, des souffles froids firent frissonner Madeleine. Le charme était rompu, l'heure passée. Il fallut prendre le chemin du retour, mais nulle parole banale ne pouvait plus tomber entre eux. Ils descendirent de leur rocher, ils se trouvèrent dans les prés. Madeleine posa la main sur le bras de Cerny et dit « Je sais, depuis longtemps, que vous avez eu un grand malheur dans votre vie. » Il balbutia « Ah, vous savez ?»« Je sais. » Elle attendait la confession que l'aveu suivrait bientôt. Mais il continuait à marcher d'un pas ralenti, sans rien dire, la tête basse. Elle eut peur de l'avoir froissé, plus peur de l'avoir affligé. Pourtant, elle sentait qu'aucune volonté ne pouvait rappeler la parole prononcée, et qu'après cette parole, d'autres devaient venir pour faire éclater la lumière. Le sentait comme elle et ne pouvait rien dire. Et comme il tâchait de parler par un regard d'angoisse qui brilla dans la nuit, elle reprit, la voix tremblante, en fermant dans une courte phrase le sens complet de toutes ses pensées, de toutes ses rêveries, le dernier mot de son roman. « Comme vous avez dû l'aimer !» Cerny comprit aussitôt qu'avoir aimé, c'était son excuse, son pardon. Il eut l'intuition que leur avenir entier dépendait de sa réponse, la tentation de confirmer d'un mot. Peut-être que le silence aurait suffi, cette explication de sa misérable aventure qui l'absolvait en le grandissant. Mais il sentit, en même temps, quelle serait l'infamie de ce mensonge, de quel poids il pèserait sur leur vie, la tâche qu'il mettrait à leur bonheur, le mépris définitif où il le jetterait de lui-même. Il détourna les yeux et dit « Mais non, je ne l'ai pas aimé. » Madeleine retira la main si doucement posée sur le bras de Julien. À ce geste d'éloignement, il comprit que sa douloureuse franchise venait de déchirer un voile, qu'un poème s'effondrait, qu'une méfiance nouvelle entrait dans l'âme de la jeune fille. Il devina ou pressentit les idées qui galopaient à travers l'espace couvraient en elle la fuite de son roman. On peut donc vivre sans amour, les drames les plus violents de l'amour? On peut, sans cette suprême excuse, courir au-devant de la honte et de la mort? Et c'était là son secret, la honteuse blessure qu'elle rêvait de panser et de guérir. Ah! Pourquoi donc l'avait-elle imprudemment découverte dans sa hideur d'ulcère empoisonné? Pourtant, toute pitié n'était pas morte en elle. La révélation qui mettait sous ses yeux le mal en pleine lumière l'éclairait aussi, plus faiblement, sur l'excuse qu'il a d'être universel et fatal, comme la laideur, la douleur et la vie. Et puis, il souffrait, l'ami de tout à l'heure, auprès duquel elle venait de parcourir l'infini, et sa souffrance était sincère, faite de honte, de remords, de regrets, de désirs. Il cheminait à côté d'elle comme ployé sous le poids d'un monde très lourd de vices et d'iniquités. Aussi, son cœur de femme tremblait-il de le sentir si proche et si douloureux. Si elle s'éloignait, c'est qu'une force secrète la tenait à distance. Si elle se taisait, c'est que la même force l'obligeait à se taire. Mais lui, pourquoi ne disait-il rien? Des lumières apparaissaient aux petites fenêtres des premiers chalets du village, de faibles lumières falotes qui veillaient à peine, comme une lueur d'espoir au fond d'un cœur désolé. Julien murmura « Vous ne pouvez pas comprendre ». Madeleine répondit « C'est vrai, Je ne veux pas. » Ce fut tout. Devant l'hôtel, ils se séparèrent sans rien dire, elle montant dans sa chambre, lui s'arrêtant sur la place où stationnaient encore quelques ombres attardées. Ce fut là que, plus tard, quand les derniers étrangers furent rentrés dans l'hôtel, dont les fenêtres s'éteignaient une à une, Volant, qui avait rejoint Sterny, écouta le triste récit de cette soirée. Un instinct mélancolique les avait poussés sur le banc des vieux. Arrivé au terme de sa confidence, Julien dit « Maintenant c'est fini. Je n'ai plus d'espoir. J'ai fait ma dernière banqueroute. » Volant l'avait écouté avec une bienfaisante sympathie. Il tâcha de le consoler. « Vous vous désespérez pour une impression qui passera. Je suis sûr que vous êtes aimé, donc elle vous reviendra. » Mais Julien ne voulait rien entendre. « Non, non, disait-il, je partirai demain. Et cette fois, je ne reviendrai plus. C'était un joli rêve. J'en suis éveillé. Adieu, Valanche, et l'espoir d'une nouvelle vie. » « Sachez attendre, ayez un peu de patience, il en faut pour acheter son bonheur. Trop heureux encore quand on peut l'acquérir à ce prix et qu'on l'a devant soi. » Souvent, les paroles de Volant trahissaient ainsi l'arrière-goût amer d'une vie déçue. Jamais il n'en parlait, mais sûrement il avait aussi son passé. Plus lointain, effacé par les années, brouillé comme un paysage éloigné sous un ciel gris. Toujours là pourtant. Sans doute, c'était ce passé qui donnait le ton à son âme stoïque et fière. Il faisait courir les douloureux frissons du souvenir, la dressait au-dessus de la destinée. Peut-être aussi était-ce encore ce passé qui, après avoir trompé les espoirs de son cœur romanesque, le rejetait tout éperdu vers la montagne. Le fait est qu'elle remplissait sa vie, qu'il l'aimait violemment, avec les sourdes colères, les dépits, les retours, les extases, les malédictions d'une passion invincible. Elle le torturait d'ailleurs, comme une amante capricieuse, en le forçant à de continuelles victoires sur lui-même. Car il souffrait du vertige qu'il ne dominait qu'à force d'entraînement et d'énergie. Et pas toujours. Que de fois il était revenu, la mort dans l'âme, d'une ascension que sa faiblesse l'avait empêché de pousser jusqu'au terme. Avec quelle ardeur fiévreuse, avec quelle ferveur presque sensuelle, il désirait ses joies et de les renouveler sans cesse. Or, le soir même où il écoutait avec une bienveillance si sympathique les confidences de Sterny, il mûrissait un grand projet pour le lendemain. Faire la tour aux fées par Solnoir. Directement, par la muraille presque perpendiculaire du grand revers. Et ses arrangements étaient pris. Mais le lendemain, il trouva Sterny si accablé qu'il lui offrit de renoncer à sa course pour lui tenir compagnie. Julien remercia, sans accepter. Il avait passé la nuit à faire des malles. Il voulait partir. Après avoir, en vain, repris ses bons arguments de la veille, Volant cessa d'insister. Toutefois, il voulut l'accompagner jusqu'à Serviese, une telle promenade du matin ne pouvant nuire à sa course. Et en le quittant, il lui dit ces mots que Julien ne devait point oublier. « Vous avez manqué le bonheur, mon ami. Rappelez-vous que vous le retrouverez ici. » Rentré pour le déjeuner, Volant remarqua que Madeleine ne venait pas à table. Élise allait, quand il s'informa de la jeune fille, répondit qu'elle avait la migraine. En sorte que ce fut en rêvant au singulier tour de la vie, à ces caprices qui rapprochent et disjoignent les cœurs faits pour s'entendre et si souvent séparés à jamais, qu'il se mit en route vers la fin de l'après-midi. Maurice Combe et César Cascaté l'accompagnaient avec leurs cordes et leurs piolets. Il n'avait parlé de son projet à personne. Mais Penet rencontra la petite caravane au sortir du village, et bien que les alpinistes soient toujours fort discrets, il ne put s'empêcher de leur dire, en regardant leur attirail, « Oh, c'est du sérieux aujourd'hui !» Volant répondit « Je l'espère. » Tâchez de ne pas vous casser le cou.
On tâchera. Les deux guides échangèrent un regard de confiance. Avec celui-là, on pouvait risquer n'importe quoi, sans courir d'autres dangers que ces dangers objectifs auxquels il ne faut jamais penser. Avalanche, chute de pierre, ouragan de neige. Aucun alpiniste ne savait mieux tout son art. Aucun n'était plus absolument maître de soi. Prudent, raisonnable, d'un sang-froid merveilleux dans les moments difficiles, sachant aussi se résigner quand il fallait rebrousser chemin, trop sage pour s'obstiner contre la chance. Jamais d'ailleurs ses compagnons habituels n'eussent soupçonné ce que lui coûtaient les sacrifices qu'il accomplissait aux menaces du temps ou à la faiblesse dont il souffrait. Car il était de ces passionnés qui ne font aucune folie et restent toujours maîtres des émotions que leur visage ne trahit pas. « Bonne chance !» leur dit Penet. « Merci !» De leurs grands pas égales, ils gravirent le sentier qui s'élève le long des pentes vertes, au-dessus des hêtres, pour disparaître bientôt sous les sapins et les mélèzes. À de longs intervalles, ils échangeaient quelques paroles qui tombaient dans le silence dont la montagne les enveloppait. Les pointes de leurs piolets cliquetaient sur les pierres du chemin. De place en place, de larges échancrures à travers la forêt découvraient des pans de la vallée ou encadraient des montagnes. La pyramide boisée du mont Catogne, le dôme éblouissant du Grand Combin, le cône tronqué de la pierre à voir. Comme ils approchaient des Mayens de Belle, ils aperçurent un gamin qui ramassait du bois mort. César lui jeta en patois une petite phrase, car les montagnards ne se rencontrent guère dans les solitudes sans se saluer par quelques paroles. Un peu plus loin, le troupeau des chèvres qui redescendait au village leur barra le chemin. Elles marchaient à petits pas, serrées les unes contre les autres, derrière un bouc noir, majestueux et puant. Ce ne fut pas sans effort que les trois alpinistes réussirent à percer leur troupe bêlante et clochettante. Le chevrier, son chapeau chargé de fleurs d'automne, leur cria « Bon voyage !» Le bruit des clochettes s'éloigna. Ils arrivèrent dans le vallon qui étend sous les pierriers du sexe de Belle, autour des Mayens disséminés, le long de l'épande, ces épais regains d'un vert d'émeraude. Les Mayens, inoccupés jusqu'à l'automne, étaient vides et silencieux. « Les vaches vont redescendre la semaine prochaine, » dit Maurice. « Déjà ?» fit Volant. « Au 15 septembre, comme toujours. » Ils gravirent le dur sentier pierreux dont la pente s'adoucit plus haut. S'arrêtèrent pour boire un coup à l'endroit où l'épande, après s'être perdue sous le sol, semble jaillir du rocher, et arrivèrent en vue de sol noir à l'heure où la nuit tombe. Volant regarda sa montre et dit « Nous avons bien marché. »«
C'est vrai, » répondit Maurice.
Plus près des chalets, pendant que les dernières lueurs du couchant s'éteignaient sur l'arête de la dent grise, Volant s'arrêta pour examiner la paroi formidable de la tour aux fées, le grand revers dont il allait tenter la conquête. Qu'est-ce donc qui l'attirait ainsi vers cette montagne, dont son œil fouillait les couloirs noyés d'ombre, les replats où il se cramponnerait demain, le puissant glacier qui la cuirassait de ses reflets de fer? Non pas, certes, sa seule beauté, sa sauvagerie plutôt, son orgueil d'être inexpugnable, la hardiesse de l'entreprise, la griserie du danger. Et puis, qui sait, un de ces signes muets de la destinée qui nous pousse où il faut que nous allions. Ses regards se brisaient contre les parois impénétrables dont l'obscurité effaça les saillies, qui ne furent plus qu'une masse uniforme presque noire, un corps énorme obstruant l'espace. Alors Volant rejoignit ses deux guides, qu'il avait précédés dans le chalet. Une chandelle dans une lanterne éclairait l'intérieur de la chavane. Le tabla mobile attenant au mur, les ustensiles appendus aux parois,
l'échelle qui monte à la soupente, la porte du cellier. Le fruitier, dont la besogne approchait de sa fin, plongeait ses bras nus dans la chaudière où cuisait le fromage. Trois pâtres mangeaient dans des écuelles de bois leurs pâtés de pain noir et de céré, en devisant lentement avec les guides. On distinguait à peine sous leurs chapeaux informes leurs barbes et leurs traits. Leurs gestes graves, presque solennels, ennoblissaient la misère de la hutte. Ils ne regardèrent même pas Volant. Ils ne répondirent à son salut qu'en touchant le bord de leur chapeau. Ce n'est pas un des moindres charmes de ces hauteurs que d'y être dénoué des liens de la sociabilité. Les rudes hommes qu'on y trouve vous donnent une place devant leur feu, un coin pour vous étendre dans leur foin, mais vous n'entendez guère le son de leur voix. Volant les connaissait assez pour se dispenser des phrases vaines que d'autres croient devoir prononcer. Après avoir mangé un morceau sur le pouce, il tira sa pipe de sa poche, demanda d'un geste du tabac à César, et tout en tirant de larges bouffées de fumée, il s'abandonna à de confuses rêveries. Un instant, l'image de Sterny passant devant ses yeux, il songea aux ruines où peut refleurir l'amour, à l'éternel renouveau des cœurs, à l'oubli bienfaisant qui s'étend sur nos peines. De là, il glissa sur la pente de ses propres souvenirs. Bien que les années leur eussent enlevé toute amertume, il se sentit comme envahi par une profonde tristesse, toute chargée d'inutiles regrets. Puis sa rêverie devint plus vague encore, broyant les confuses idées de la vie et de la mort. Bientôt tous gagnèrent les racards où ils allaient dormir. Ce fut Volant qui s'éveilla le premier, avant le jour. Il appela ses compagnons. Tous trois s'étirèrent dans le foin, tâtonnèrent pour trouver leurs chaussures et furent bientôt debout, devant le chalet. La faible lueur grise du crépuscule du matin s'étendait sur la vaste plaine. Les silhouettes noires des pâtres qui allaient traire glissaient dans l'obscurité, leurs escabeaux attachés au derrière. Le pâteau descendit de sa soupente. Il faisait un froid vif et piquant. Maurice Combe alluma du feu pour préparer le café, tandis que les deux autres se dirigeaient vers le torrent, achetés pour un sou d'eau pour une toilette sommaire. Ces préparatifs prirent un peu de temps. Puis, les touristes déjeunèrent à la hâte, debout, leur écuelle posée sur le tablat à pivot. « Nous aurons une belle journée, » dit César. Après un silence, Volant répondit « Il ne faut pas nous attarder. » Maurice avalait sa dernière bouchée. « En route » fit-il. Ils saluèrent le pâteau, qui, debout devant le chalet, les suivit un instant des yeux. Leurs pieds enfonçaient dans le sol marécageux du pâturage, en secouant la rosée des hautes herbes. En peu de minutes, ils se trouvèrent au pied de la tour aux fées, qu'ils avaient résolu d'attaquer par la droite, à son point de jonction avec la dent grise. Ils commencèrent à grimper. Ce fut d'abord, entre deux névées, un long éboulis en pente raide, fatigant, car le sable et les cailloux roulaient sous les pas, mais qui ne présentaient aucune difficulté. Il leur fallut plus d'une heure pour le gravir. Volant, dont le souffle était court, s'arrêtait de temps en temps pour reprendre haleine. Il se sentait un peu las, un peu faible. Mais c'est une impression fréquente au début des courses, dans l'air trop frais, après un sommeil trop bref, et il n'eut garde de la trahir. Ses deux compagnons avançaient comme d'habitude, attentifs, silencieux et lents, instinctivement ménagés de leurs forces. Arrivés au bout du pierrier, ils s'arrêtèrent, hésitant entre deux couloirs qui inclinaient vers la gauche et devaient aboutir à un replat d'où l'on pourrait gagner le glacier transversal. « Je crois qu'il faut prendre celui-là, » dit César, après avoir examiné de son regard perçant les saillies des deux couloirs. Il désignait celui qui semblait le plus rapide, et il ajouta pour justifier son choix « L'autre a une mauvaise plaque, Du doigt, il montrait un rocher lisse, pareil à une grande ardoise, qui interrompait le couloir sans une prise. Les autres acquiescèrent. Maurice dit « On va s'attacher ». « Pas encore, » dit Volant. « Ce serait peut-être plus prudent. »«
Il n'y a aucun danger. »
Avec un touriste novice, le vieux guide aurait imposé sa sage volonté, mais il n'insista pas. Monsieur Volant, dans son idée, était de ceux auxquels on n'apprend rien. S'il ne voulait pas de corde, c'est que pour sûr on pouvait s'en passer. Ils se mirent donc à grimper, l'un devant l'autre, lentement, en tâtant des pieds et des mains les saillies où ils s'accrochaient. « La roche est bonne, » dit Maurice. Volant ajouta « Meilleur qu'on aurait cru. » En ce moment même, comme pour leur donner un démenti, cinq ou six grosses pierres bondirent au-dessus de leur tête, tandis que des débris et du sable pleuvaient un instant sur eux. « Diable !» fit César. Ils s'arrêtèrent. Avec un bruit sourd, la petite avalanche roula plus bas, en éveillant des échos prolongés. Puis le silence se rétablit. Un silence profond, où montait, à peine perceptible, le bruit éloigné des sonnailles des vaches qui pâturaient loin en dessous d'eux, de l'autre côté des chalets de sol noir. « Continuons, » dit Volant. Ils reprirent leur grimpée, plus lentement encore, en évitant autant que possible d'ébranler la roche qui les portait. Comme ils l'avaient calculé, le couloir aboutissait à un replat, fort étroit d'ailleurs, où ils s'arrêtèrent. « Jusqu'à présent, ça n'est pas bien terrible, » dit Volant qui s'essuyait le front. « Il faudra voir, » répondit Maurice en regardant vers le sommet. En ce moment, le soleil pointait à l'horizon, qu'il emplissait d'une grande nappe de lumière pâle, tandis que des lueurs blondes se jouaient sur l'arête de la dent grise. Le pâturage, comme enfoncé dans sa ceinture de pentes et de contreforts, demeurait noyé d'ombre, ouaté d'une mince couche de buée, piqué des petites taches noires qui faisaient les bestiaux. Derrière, à mesure que les brumes du matin s'entr'ouvraient, sous des coups d'air où se dissipaient dans la lumière, apparaissaient les montagnes lointaines. Déjà, les cimes du Haut-Valais sortaient des nuages. L'on pouvait distinguer la grande paroi désolée du Pleureur, le dôme paisible du Grand Combin, et plus loin, à demi cachés encore, des fragments de sommets rocheux, des morceaux vaporeux de glaciers. Bien qu'on se fût à peine élevé de 400 mètres, on avait déjà une de ces vues panoramiques si fréquentes dans les Alpes, qui semblent étaler aux yeux le mystère dévoilé de la montagne. Les trois grimpeurs ne s'attardèrent point au spectacle, quelque magnifique qu'il leur parut. Volant, assoupli par la gymnastique de la montée, se sentait plus léger, plus fort. Les pentes raides qu'il dominait ne l'incommodaient pas outre mesure. Et puis, il éprouvait ce plaisir de voir ses prévisions justifiées, puisque, jusqu'à ce moment, les difficultés de leur entreprise étaient plutôt moindres qu'ils ne l'avaient supposé. Ils gagnèrent sans aucune peine le glacier, ce glacier qui, d'en bas, semble accroché au flanc de la montagne, prêt à crouler, et qu'il leur fallait traverser en longueur pour rejoindre l'épaulement qu'ils visaient. « Cette fois, » dit Maurice en arrivant à la rimaille, « il faut nous corder. » Ils s'attachèrent aux distances voulues. La pente devint tout à coup extrêmement rapide. Lisse, striée, crevassée en plusieurs endroits, poudrée de place en place par la poussière noirâtre que laissent après elle les chutes de pierre, la glace descendait, puis s'arrêtait net, comme coupée au couteau, droit au-dessus de la paroi verticale qui surplombe sol noir. César, qui tenait la tête, taillait des pas avec son piolet, et la glace était si dure qu'elle rejaillissait en esquilles de cristal. Les deux autres posaient lentement leurs pieds sur la marche ainsi préparée, juste suffisante à leur assurer l'équilibre. En se prolongeant, Cet exercice est singulièrement énervant. Volant se sentait repris par un vertige d'autant plus pénible qu'il avait la pente à sa gauche. Il le combattait à force d'énergie, en évitant de regarder dans le vide. Mais par moments, il sentait fléchir ses genoux, tandis qu'un indicible malaise lui serrait la poitrine et qu'une force cruelle, irrésistible, l'obligeait à plonger ses regards dans l'espace béant. Ils allaient ainsi, presque suspendus à la surface glissante sur laquelle il fallait conquérir chaque pas. Leur vie à tous les trois dépendait de leur vigueur et de leur sang-froid, car à la moindre glissade, ils filaient vers l'abîme, malgré l'illusoire précaution de la corde qui ne servait qu'à les unir dans le péril. Mais ils se connaissaient. Ils savaient de façon certaine qu'ils ne glisseraient pas. Ce danger-là, ils le bravaient avec une tranquille confiance. Peu à peu, volant lui-même triomphait de sa faiblesse, retrouvait la sûreté de son pied, son souffle, sa force. Par moments, les pentes s'adoucissaient. Ils faisaient alors quelques pas sans le secours de leur piolet, puis il fallait recommencer. Cela dura près de 3 heures, sans qu'ils trouvassent un endroit où ils auraient pu s'arrêter. 3 heures d'attention toujours tendue, de mouvements calculés, d'efforts de tous les muscles, de dangers toujours présents. Enfin, ils arrivèrent au terme, franchirent la rimaille. Ayant longé la montagne dans toute sa longueur, ils se trouvaient maintenant perchés sur un replat de sa paroi la plus verticale, entre la ceinture du glacier et la paroi nouvelle qui le surplombe. On ne peut pas s'arrêter là à cause des pierres, dit César. Maurice répondit : Il faudrait pourtant bien se reposer un peu. En inspectant l'étroit espace où ils pouvaient se mouvoir, ils découvrirent une sorte de grotte. Ils y étaient à peine blottis qu'un grondement sourd, arrivant des hauteurs, leur annonça une nouvelle décharge de la montagne. Quelques cailloux bondirent au-dessus d'eux, puis toute une avalanche. Les plus gros blocs tombaient en immenses paraboles avec des détonations d'artillerie de siège, tandis que les pierres plus petites roulaient plus près parmi des crépitements plus aigus en s'enveloppant de poussière. L'avalanche s'abattit sur le glacier, fila le long de sa pente avec une rapidité folle, disparut parmi des grondements de tonnerre qui s'éloignent. Les trois grimpeurs restaient muets pendant cette razzia qui, quelques minutes plus tôt, les eut emportés, se regardèrent. Maurice dit « J'espère qu'elle a bien fini à présent ». Son front se ridait d'un pli soucieux. Sans s'attarder davantage à cette idée inquiétante, il reprit « Si on cassait une croûte, hein ?»« Avec plaisir, » répondit Volant. Le guide tira de son sac un pain, du saucisson, une bouteille de vin blanc qu'ils se partagèrent. Un espace immense s'ouvrait maintenant devant eux. Un amoncellement de montagnes massives ou capricieuses, des glaciers étendus dans la lumière, des vallées où traînaient encore des raies d'ombre. Volant, dont l'œil exercé reconnaissait toutes les cimes, saluait celles qui lui rappelaient de chers souvenirs ou de fortes émotions. Là-bas, au-dessus du glacier de Fourgen, une avalanche pareille à celle de tout à l'heure avait déjà passé au-dessus de sa tête. Plus haut, dans quelle gymnastique vertigineuse il avait gravi la paroi des rochers rouges au Cervin. Et il entendait encore le « hioué » triomphant de son guide, Peter Knubel, l'homme du Cervin, après ce dernier et vaillant effort. Quelles émotions sur les corniches poudrées de neige du versant sud du Wessorn, au-dessus du précipice qui domine de 1200 mètres le glacier au Hotlitch. Quelle déception quand, à 20 minutes du sommet du Rothorn, la lâcheté d'un porteur l'avait obligé à battre en retraite, sans achever l'ascension. Oui, ces grandes cimes, il les adorait. Il avait fait de leur commerce le but et la joie de sa vie. Il ne cesserait jamais de les aimer et de les prendre. ils ne craignaient point la mort qu'elles recèlent dans leur linceul de glace.
« Eh bien, dit César, si nous nous mettions en route,
allons. » Le guide examina les rochers dressés au-dessus d'eux et dit « C'est maintenant que ça va chauffer. »
En effet, il s'agissait de gravir une succession de cheminées perpendiculaires dont nul indice ne leur révélait la nature. En sorte que, pour choisir les plus accessibles, il leur fallait se fier à leur instinct. Telle pouvait être brusquement coupée, manquer des saillies indispensables, aboutir à un passage tout à fait infranchissable. Ce fut donc une véritable bataille qu'ils engagèrent là. Repoussés quelquefois, ils se repliaient, se recueillaient, recommençaient l'attaque. Après avoir dangereusement conquis quelques mètres, il leur fallait les rendre, redescendre à travers un autre péril pour prendre une autre direction. Suivant les exigences du rocher, ils attachaient ou dénouaient les cordes, ou faisaient la courte échelle, le dos solide de Maurice leur prêtant son appui. La montagne avait cessé ses décharges. Elle ne se défendait plus que par sa formidable inertie. Un silence infini les entourait, que rompait seul le halètement de leur poitrine ou les rares paroles qu'ils se jetaient l'un à l'autre.
« Par ici, je crois. »«
Non, la roche est mauvaise. Par là, plutôt. »
Les cheminées se succédaient, plus raides à mesure qu'on s'élevait davantage. Mais toute cause de vertige ayant disparu, Volant se jouait dans cette vigoureuse gymnastique qui n'exigeait aucun effort qu'il ne put fournir. Il se sentait libre et gai maintenant, de cette gaieté qu'il connaissait bien, qui ne manquait jamais de s'épanouir en lui, dans les hauteurs, aux approches de la victoire finale. Tout à coup, il poussa un cri de joie.
« Hop là, nous y sommes !»
La dernière cheminée les avait comme jetés sur l'arête, assez large à cette place pour qu'ils pussent s'asseoir.
« Cré matin !» fit Maurice en se frottant les genoux,
ses genoux de 55 ans qui commençaient à se rouiller un peu. Maintenant, d'autres montagnes surgissaient, celles qu'avait jusqu'alors caché la paroi même qu'ils gravissaient, et d'autres encore, qui semblaient monter à l'horizon. Proches ou lointaines, nettement profilées, en ton dur, au premier plan, ou estompées en lignes bleuâtres sur le bleu du ciel, elles les entouraient de tous les côtés, pareilles aux vagues figées d'une mer furieuse. Les unes, en troupeau, descendaient en tranches énormes et bondissantes entre les vallées. Les plus hautes, dédaigneusement isolées, semblaient se menacer à distance, par-dessus le moutonnement de l'espace. Fines comme des découpures de cathédrales ou régulières comme des pyramides, elles s'accroupissaient en des poses de monstres au repos, s'estompaient avec des sveltesses de colonnades, se tordaient comme des troncs que travaille la sève, se tassaient comme des citadelles écroulées. Aux Alpes du Valais s'ajoutaient les Alpes de l'Oberland, dont la ligne tourmentée fermait l'horizon. Plus près, par-delà le Florent, les aiguilles des massifs du Trian et d'Orny surgissaient de leur désert de glace. Puis l'aiguille verte allongeait son arête énorme et circulaire, aussi grandiose que l'entassement voisin du Mont Blanc. Plus près encore, une autre arête, celle du Cheval Blanc, allait rejoindre le sommet du Buet, morne, désolé, avec des coulées de roches noires parmi ses neiges. Et puis, partout, c'était encore d'autres montagnes, des montagnes toujours, les Alpes, toutes les Alpes, telles qu'un caprice de la nature les a faites de pierre et de glace pour écraser un morceau de la terre sous leur poids magnifique. Volant contemplait ce spectacle toujours changeant et toujours le même qu'il avait vu dérouler au pied de tant de cimes. Pour en varier l'aspect, il fit quelques pas sur l'arête, s'éloignant ainsi de ses compagnons. La victoire l'exaltait. La fièvre de la marche battait dans ses veines. Il ne sentait plus aucun vertige, aucune fatigue. Il plongeait ses regards dans le vide,
Il les emplissait d'espace, de lumière, d'air frissonnant, de lignes superbes, de couleurs merveilleuses. Il buvait la blancheur étincelante des glaciers, le vert des pentes et des vallées, le bleu du ciel. Il ne pensait plus. Sa pensée aspirait l'espace. Son âme s'ouvrait pour accueillir, comme en des reflets condensés, toute la beauté des choses. Elle s'élargissait, comme si elle eût embrassé l'infini. Elle se fondait, elle se dissipait, dégagée de ses liens, délivrée de ses attaches, n'étant plus qu'un atome imperceptible de cet ensemble, qu'elle suffisait pourtant à réfléchir avec ses plus légers détails et dans toute son immensité. Il vécut un de ces instants dont la volupté, une fois savourée, dépose au fond de vous le germe d'un désir éternel. Un de ces instants où la conscience s'évanouit délicieusement dans les choses et se pâme sous la caresse du néant. Un de ces instants où l'on ne sent plus peser sur soi ni le poids fatigant de l'être, ni l'effrayante menace de la mort. Et comme il était là, debout au bord de l'arête, la roche friable céda tout à coup sous ses pieds. Il ne poussa pas un cri. Ses deux compagnons, dont les cheveux se dressèrent d'effroi, virent seulement son grand corps tomber en tournant sur lui-même le long de la paroi qu'il surplombait, filer sur la surface du glacier qu'il venait de traverser, disparaître parmi des cailloux que sa chute entraînait, dans le gouffre ouvert sur sol noir. La catastrophe ne dura pas un quart de minute. La montagne avait, d'un seul coup, dévoré sa proie et rentrait dans son silence tranquille et souriant.